Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Salut à toutes et tous et bienvenue dans les grandes gueules du sport. Merci de nous écouter à chaque fois, plus nombreux week-end après week-end. On est ensemble jusqu'à midi où vous nous écoutez, je sais, en podcast, beaucoup en faisant votre petite sortie de course à pied ou à vélo. On vous encourage et envoyez-nous vos messages sur WhatsApp au 0612 424 424 et vous êtes aussi nos grandes gueules du sport au 32-16. Tiens, avant de commencer, j'ai une pensée ce matin pour Christophe Glaise, notre ami journaliste qui est détenu en Algérie depuis plus de 300 jours simplement pour exercer son métier. On peut l'exercer librement, nous, ce matin, et on a forcément une grosse pensée pour lui, et je vous invite à le soutenir, notamment en allant signer la pétition sur le site de Reporters sans frontières. On pense fort à Christophe et à sa famille, son entourage, évidemment. On lui souhaite bon courage s'il nous écoute d'une façon ou d'une autre. Les grandes gueules du sport ce matin avec un retour. Il est bronzé comme Jaja, pas comme Laurent Jalabert, mais comme jamais, comme dirait Maître Gims. C'est Christophe Cessieux, de retour. Maître Cessieux,
bonjour, ça va, Chris? Comment ça va?
Très bien, bien reposé.
C'est un peu blanc, je trouve. Non, Marc Sarah, qui vit au bord de la mer, est tout bronzé.
Bah oui, mais bon, on n'a pas la chance bon, comme toi.
Eric Salio était à Monte-Carlo, il n'a pas trop bronzé cette année. Et Denis Charvet sur le bassin d'Arcachon, non plus.
Très bien. Bah voilà, tout le casting est donné. Bonjour, Denis Charvet. Voilà.
Il t'a viré, là, t'as vu? Tu n'as pas rendu compte, il a pris l'intervalle et pas.
Voilà. Bien sûr. Bah, bravo. C'est comme
moi
ça.
Moi qui lui avais fait une petite place. Ça quand même, je vous signale.
Ça va, Denis?
Ça va très bien.
Ça va, Sarah Pitkowski?
Eh bien, écoutez, très bien. Bonjour à tous, messieurs.
Tu vas bien? T'as passé une bonne semaine, Sarah?
Écoute, pas mal.
Tu nous as écouté la semaine dernière, énervé et tout. Je sais que tu nous écoutes souvent.
Oui, je vous écoute. Bien sûr que je vous écoute le week-end en courant. Ouais. Des fois, ça m'énerve vraiment.
Oui, mais c'est bien.
Plus vite, du coup.
Et je cours plus vite. Absolument, je cours plus vite. Quand vous m'énervez, je cours plus vite.
Marion Bartoli, vous l'entendez déjà là. Oui. Salut Marion, ça va?
Salut Marion.
Bonjour les
amis. Salut Marion.
Bonjour à tous.
En grande forme, Marion?
Oui.
Oui, toujours.
On a un mois de Roland-Garros, je vous préviens. Il y a de l'actualité, ouais. Les amis, malheureusement. Et Christophe Cessieux aussi, il y a de l'actualité, puisque le Tour de France, ça arrive bientôt. Je me suis posé la question hier, ça va, tout va bien, le cœur et tout avant l'été? Parce que là, s'il fait le Tour de France, c'est que ça, c'est
des exercices tous les matins, tu sais, pour essayer de ne pas faire monter trop.
Je vous préviens, Intégral Tour qui peut être mythique cet été, avec Christophe Cessieux aux commandes, avec toute l'équipe, Jérôme Coppel, Jérôme Pinot, si Paul fait ça, c'est au départ.
Une petite semaine, là, il est en forme.
Ah, mais c'est pour ça, en fait, Christophe a fait un stage en altitude, il était au volcan Teide, dans les Canaries, pour faire les niveaux, comme on dit, et il va arriver normalement
plein badin.
Moi, je pense qu'au bout de la première semaine, il explose. Ou dans les jeux simplement en fin d'émission. Jusqu'à midi, donc, au programme des grandes gueules du sport. À 10h30, punchline de Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, après le nul de son équipe à Brest. 3 partout après avoir été mené 3-0. Le PSG a l'occasion d'avoir 6 points d'avance en cas de succès à Angers à 19h. Autant vous dire que la course au titre a pris du plomb dans l'aile. Je me suis senti un peu trahi, dit Pierre Sage à propos de certains titulaires hier. Est-ce qu'il prend un risque avec cette communication pour la fin de saison? Sur le buzzer, J-1 avant Liège-Bastogne-Liège, Paul Sexas dit qu'il ne baissera pas les yeux face à Pogacar et Remco. La participation du Français au Tour est-elle si évidente désormais, Christophe Cessieux, oui ou non?
Pour moi, oui.
À 10h sur le ring, faut-il arrêter de parler d'âge pour réussir dans le sport, Christophe Cessieux?
Il faut arrêter.
Il vient fêter ses 61 ans. Votez sur le compte X des GG du sport, mais n'en parlons pas de l'âge. Oh, le zapping, le j'y crois pas. Et le vestiaire, quand l'ego est touché par le manque de reconnaissance. Tiens, vous allez nous parler de vos expériences, comme Rudy Gobert cette semaine en NBA, qui a pas trop apprécié d'être relégué très loin au classement des meilleurs défenseurs. Il a dit qu'il allait régler ça un peu, et il l'a réglé sur le parquet notamment. Je suis sûr que dans votre carrière, vous avez plein d'exemples. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, gagnez votre séjour dans un des 400 campings Homer. Ce sont des campings 4 ou 5 étoiles en France ou en Europe. Vous voyagez selon vos envies, de 2 nuits à 1 semaine, jusqu'à 6 personnes sur l'année à venir, pour remporter votre séjour Homer. Appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Mais d'abord donc, tremblement de terre sur la planète tennis. Le double tenant du titre de Roland-Garros, Carlos Alcaraz, forfait pour le tournoi. Nous n'aurons pas la revanche de la finale mythique de l'an passé face à Sinner.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
Qui va sortir la première, Alcaraz? Oui, la première est dedans.
Oh là là, elle est pas partie.
On est forcément un petit peu déçus de ne pas l'avoir, surtout avec ce qui s'est passé l'année dernière, cette finale exceptionnelle.
Oh là là, il trouve du Carlos Alcaraz.
phrase.
La mythe le long de la ligne.
Alors là, tu prends des percutes, hein.
Non.
Et il pousse le public, évidemment, il en veut.
That's very tough. But it's sad for tennis. I mean, Carlos, defending champion.
Ça revient encore. Passing, volé à Tineur, magnifique. Oh là là, les nerfs qu'il a eu.
Ouais, pas de stress.
T'as vu le.
Yeah, it is very sad and I was not expecting that.
Oh, il finit sur un passing, deux coups de droit, Carlos Alcaraz. Cette finale mythique.
C'est incroyable.
S'achève sur un winner.
C'est l'information sport du week-end. Carlos Alcaraz, forfait pour les internationaux de France dans un mois. Le double vainqueur du tournoi l'a officialisé hier soir sur ses réseaux sociaux. Alors c'est une demi-surprise, hein, parce qu'on savait déjà que l'Espagnol souffrait d'une blessure au poignet droit qu'il aurait contraint à renoncer au Masters 1000 de... qu'il avait contraint à renoncer au Masters 1000 de Madrid. Les GG, je vous pose la question ce matin. Très simple. Alcaraz, forfait pour Roland-Garros. Est-ce que sans l'Espagnol, le tournoi perd de son intérêt? Christophe Cessieux.
Oui.
Denis Charvet.
Oui. Pardon, c'est mieux avec le micro. Oui, évidemment.
Mario Bartoli.
Non.
Sarah Pitkowski.
Non.
Comme je suis surpris, tiens, que les joueuses de tennis.
Elles défendent leur tennis.
Leur
beefsteak, surtout, oui.
On vous attend au 32-16 sur WhatsApp.
On n'a pas besoin de ça pour défendre notre beefsteak.
Si, si, si.
C'est clair. Non, non, c'est clair.
Parce que vous avez des gros beefsteaks, mais un petit beefsteak en plus.
Non, non plus, non. Non plus, non.
Je ne comprends pas du tout où vont les métaphores. Eric, salut notre voix du tennis sur RMC. Nous rejoint. Salut, Eric.
Bonjour à tous.
Eric qui se tient le coup depuis son entrée dans le studio.
Tennis Elbow.
Tout va bien?
Oui, je me suis mal pour Roland, mais je veux pas. Il m'arrive beaucoup de trucs bizarres.
On a besoin de toi dans un mois.
Hein. C'est tournoi à Monaco.
C'est ce que j'allais dire, c'est le tournoi du journaliste de Monaco. C'est pas une histoire de cordage par hasard?
Exactement.
Il faut du temps pour récupérer.
Ça n'a rien à voir avec
Monte Carlo. On compte surtout évidemment pour Roland Garros, surtout que Carlitos n'est plus là. Alors, comment ce forfait a été annoncé et reçu par la planète tennis, Eric?
Il était 17h40 hier quand Carlitos a annoncé la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux. Mais pour être honnête, après son discours lundi au Laureus Awards, la surprise était relative, souvenez-vous.
Comme je l'ai dit, si Dieu le veut, j'ai une longue carrière devant moi, beaucoup d'années à venir. Forcer pour Roland-Garros pourrait me pénaliser énormément pour les tournois à venir. On va voir ce que donneront les examens, mais je préfère revenir un peu plus tard plutôt que de me précipiter.
Mais dans l'enceinte de la Cara Magica, le coup de massue est perceptible. Écoutez Yannick Sinner qui fait répéter le speaker lorsque celui-ci lui annonce le forfait de l'Espagnol.
Oui, c'est difficile. C'est très difficile. Vous savez, ce genre de blessure, il faut y aller très lentement. Mais c'est triste pour le tennis. Je veux dire, Carlos, c'est le champion en titre. Moi, étant un compétiteur, je veux toujours jouer contre le meilleur du monde. Et il est le meilleur du monde sur cette surface. C'est une mauvaise nouvelle, donc je souhaite qu'il récupère au plus vite. J'espère qu'il sera prêt pour Wimbledon, mais c'est très triste et je ne m'y attendais pas.
Amélie Mauresmo, la directrice de Roland-Garros, a réagi à la perte de son double tenant du titre. C'est seulement la cinquième fois de l'histoire qu'un tenant du titre ne peut défendre son bien.
Première chose, c'est de penser tout d'abord à Carlos Alcaraz, qui a eu une décision forcément très difficile à prendre pour lui. C'est combien il est attaché au tournoi de Roland-Garros, double tenant du titre. Pour nous, on est forcément un petit peu déçus de pas l'avoir, surtout avec ce qui s'est passé l'année dernière, cette finale exceptionnelle, et les deux éditions qui ont été marquées de son empreinte. Déçu un petit peu aussi pour le public, hein, forcément, qui espérait le voir évoluer sur nos courts.
Rafa Nadal a aussi réagi sur les réseaux sociaux. Maintenant, au moment du tirage au sort, le jeudi 21 mai, la tension sera palpable. Les 126 joueurs qui attendront d'être placés voudront être situés dans la partie basse du tableau. Parce qu'évidemment, les chances d'atteindre une finale d'un chelem seront évidemment plus importantes.
Merci Eric, tu restes avec nous. Alcaraz, forfait pour Roland-Garros. Tiens, avant de rentrer dans notre débat, d'abord peut-être une réaction, Marion. Le forfait d'Alcaraz, c'est quand même, c'est un séisme dans la planète tennis.
Bien évidemment, comme l'a parfaitement expliqué Amélie, lorsque vous avez votre tenant du titre qui ne peut pas participer au tournoi de Roland-Garros, c'est bien sûr un séisme, mais ce sont des blessures qui font partie d'une carrière. On sait très bien que toutes les articulations, les poignets, les épaules, les genoux, les hanches, les chevilles sont soumis à rude épreuve, surtout avec les vitesses de balles qui augmentent de plus en plus, la lourdeur des balles aussi qui augmente de plus en plus. Carlos Alcaraz est un joueur avec un jeu extrêmement énergivore, donc malheureusement on est forcément bien sûr déçus parce qu'on voulait avoir un remake de cette finale, mais en aucun cas pour moi Roland-Garros est un tel monument qu'il est plus grand que n'importe quel autre joueur. Et c'est la même chose pour Wimbledon, c'est la même chose pour les tournois du Grand Chelem. Les tournois du Grand Chelem resteront. Et les joueurs, bien sûr, par certaines décennies passent, arrivent, font le spectacle, mais le tournoi restera au-dessus de ça. Donc, bien sûr qu'on est déçu, bien sûr qu'on aimerait, on aurait aimé le voir. Bien évidemment, c'est une évidence. Mais en revanche, le tournoi reste au-dessus de n'importe quel joueur. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler.
Christophe, pour toi, le tournoi perd un peu de son intérêt quand même, tu disais?
Bah oui, forcément, quand le vainqueur sortant n'est pas là, quand celui qui justement pousse Sinner dans, est le seul à pouvoir pousser Sinner dans ses derniers retranchements n'est pas là, bah c'est un peu comme si Pogacar, on apprenait que Pogacar ne participait pas au Tour de France. Alors,
je te pose la question.
C'est pas
si Pogacar est pas au départ du Tour de France, le Tour de France sera beaucoup moins intéressant pour toi?
Il y aura moins d'intérêt.
Ouais.
Alors, si c'est le cas, je veux qu'on pose le débat et j'attends ta réponse ce jour-là. Si tu défends pas le Tour de France, ton événement à toi.
Je te dis que.
Non, mais puis surtout,
tu dirais l'absence de
Pogacar.
Comment elle t'attaque
cette année? Je comprends pas pourquoi tu m'attaques là-dessus. Parce que pour toi, ce serait bien que Pogacar soit pas là. Que s'il ne soit pas là.
Mais non, mais le Tour de France reste au-dessus. Mais c'est le Tour de France reste au-dessus, c'est ça qu'elle veut dire.
Le Tour de France resterait au-dessus, tu dis pas. Tu vas pas dire que le Tour de France va perdre son intérêt.
Resterait au-dessus, mais le Tour de France n'est jamais aussi magnifique que quand tous ces champions sont là. Surtout cette année.
Ça, c'est une évidence.
Participe au Tour de France, tout le monde, toute la planète entière a envie de voir la bagarre entre Sexas et Pogacar.
Si un des deux n'est pas là, tu dis le Tour de France va perdre de son intérêt.
Exactement.
Ben oui.
Exactement. Mais plutôt deux fois qu'une d'ailleurs.
Non mais je peux répondre à Christophe sur le fait.
Si Mbappé, Olysée et machin ne sont pas au départ de la Coupe du Monde.
C'est dommage, mais je vais regarder la Coupe du Monde et je vais avoir envie que l'équipe de France gagne.
Mais non, mais ça n'a rien à voir.
Et ça ne va pas perdre de son intérêt.
Mais c'est un débat. Mais attendez, moi, la question, je ne comprends pas qu'on réponde non à la question. Il n'y a pas le Caraz à Roland-Garros, mais ça perd forcément de l'intérêt. Tu as le genre le plus spectaculaire au monde sur terre battue. Le meilleur joueur au monde sur terre battue, il n'est pas là.
Rappelez-vous de cette finale incroyable l'année dernière. Là, on va avoir quoi? En 3-7, 6-1, 6-2, 6-3. Génial!
Non, c'est pas ça. C'est qu'on reste sur une finale, peut-être la plus belle finale de l'histoire du tennis à Roland, et t'as envie de la revoir. Sauf que tu vas pas la revoir.
Attendez. C'est pas parce que les deux auraient été là qu'on aurait eu une finale
qu'on
entre
peut
Zinedine
forcément
et Alcaraz.
La finale.
Alors,
et bien sûr,
90%, oui.
Et qu'on aurait eu un match de 5h30 avec un scénario comme on a vécu. Chaque événement.
Non, mais on dit pas ça. C'est l'intérêt, Sarah. L'intérêt, c'est-à-dire que l'engouement. Moi, le premier, en tant que. Je suis amoureux du tennis comme beaucoup. J'ai envie de voir Alcaraz Sinner, je sais pas moi. Le fait qu'il n'y ait pas Alcaraz, ça m'enlève un truc.
Attendez, parce que je connais bien Marion maintenant. Marion est furieuse là. Vous imaginez pas.
Non, c'est exactement. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'en placer une, j'y arrive plus. Non, mais déjà, d'entendre Christophe qui dit que seul Sinner est le joueur capable d'embêter Alcaraz ou inversement qu'Alcaraz est le seul joueur capable d'embêter Sinner, je vais quand même rappeler que la demi-finale d'Open Australie, c'est quand même Djokovic-Sinner et que c'est Djokovic qui l'a remporté. Donc il y a quand même plein d'autres narratifs qui vont être extrêmement intéressants pendant ce Roland-Garros, dont éventuellement, quand même, si je le pense, ça peut énormément intéresser les gens. Un Français, comme Arthur Fils, qui peut aller extrêmement loin. Et je peux vous assurer que si Arthur Fils commence à être au milieu de la deuxième semaine et se hisser éventuellement dans un dernier carré, le fait que Carlitos n'ait malheureusement pas pu jouer Roland-Garros, ce narratif-là, il sera depuis assez longtemps oublié. Donc, bien évidemment que lorsqu'on a un tenant du titre qui ne participe pas au tournoi, bien sûr qu'on est tous malheureux et qu'on aurait envie de le voir. Mais en aucun cas, on peut dire aujourd'hui, au vu de tous les autres joueurs qui vont y participer avec... On peut avoir Djokovic qui remporte un 25e tournoi du Grand Chelem. On peut avoir un Français qui peut se hisser en finale de Roland-Garros. On peut avoir Sinner qui remporte pour la première fois Roland-Garros. On a plein d'histoires à raconter. Et on voit très bien d'ailleurs l'année dernière l'engouement qu'il y a eu autour du tournoi grâce à Loïs Boisson. Au-delà, bien sûr, de la finale qui était historique. Jusqu'à la demi-finale perdue par Loïs, l'attraction de Roland-Garros l'année dernière, c'était Loïs Boisson. Ensuite, lorsqu'elle a perdu en demi-finale, on s'est tourné vers la finale masculine qui a été héroïque.
Mais comme le rappelle très bien Sarah, on n'est pas du tout.
On te parle de l'intérêt, mais même l'intérêt, le narratif,
ça a duré 4-5 jours.
Louise Boisson, elle a rejoué son premier match à Madrid, elle faisait la couverture de l'équipe.
La seule possibilité pour sauver ce qui peut encore l'être, arrive au moins en deuxième semaine, qui fasse vibrer la France, qui tombe des grosses grosse tête de série. Bah, tu vois. Et là, effectivement, on partira dans un autre truc.
Ah bah, mais voilà. Série, alors.
Et bah, voilà. Donc, tu es d'accord avec moi?
Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi.
Regarde, hier, il a failli perdre au premier tour du tournoi.
Tu n'as aucune différence.
Et Sinner, hier, il a perdu un set contre Bonzi.
Oui, mais est-ce que Bonzi va gagner en regardant
le
jeu? Non, à la différence d'Alcaraz, où c'était quasiment certain qu'il allait arriver en finale. Avec Arthur Fils, tu n'en sais rien, c'est de l'hypothétique. Et donc tu n'en sais rien.
Mais t'as quand même.
Mais non, mais Alcaraz, tu sais qu'il va dans le final. Il te fait la quinzaine, Alcaraz. C'est pas pareil, quand même.
Sarah, tu as intérêt de Roland Garros.
Oui, l'intérêt, il va exister parce que ce tournoi a des histoires toujours plus belles les unes que les autres et pas uniquement autour des Français. On ne parle pas aussi de Zverev qui, pour l'instant, a un plafond de verre. Oui, mais Zverev sur terre battue joue remarquablement bien et peut-être que ça peut être aussi son tournoi.
Tu mettrais ta résidence secondaire, tes 50 étages à la boule sur une victoire de Zverev.
J'ai pas de résidence secondaire et j'ai pas 50
étages.
Zverev, il était à 1-7 de prendre Roland Garros. Quand il met 2-7-1 contre Alcaraz en finale, il était à 1-7 de prendre Roland Garros.
Ce qui est exceptionnel dans ce tournoi, c'est qu'il ne dure pas une semaine comme la plupart des tournois, il dure quasiment 21 jours. C'est-à-dire que les histoires se racontent au fil du temps. Donc oui, si Zverev arrive enfin à crever le plafond de verre, son histoire, elle va se raconter. On aime ou on n'aime pas le joueur, peu importe. Mais lui a peut-être aussi une occasion aujourd'hui, en tant que numéro 3 mondial, de se hisser en finale.
Plein de messages sur WhatsApp.
Ça a toujours existé, les forfaits en grand chelem.
Plein de messages sur WhatsApp. Marion, au 06-12-424-424. Cheese qui me dit Roland Garros ne se résume pas à une finale Sinner Alcaraz. Vous trompez. Guillaume qui me dit Roland Garros n'a plus aucun intérêt sans Alcaraz. Ça ressort aussi beaucoup. Guillaume qui me dit dis donc, les GG sont en forme ce matin. Perdre de son intérêt ne veut pas dire devenir totalement inintéressant.
Mais le débat, c'est est-ce que ça perd de l'intérêt?
Mais dans 15 jours, dans 3 semaines, on va avoir Madrid, on va avoir Rome, on va avoir des tournois de préparation.
La nature a horreur du vide.
Un champion va
surgir.
Le 23 mai, l'histoire Alcaraz, on l'aura derrière. On va se concentrer sur autre chose. C'est parce que là, c'est frais. Et donc, il y a le choc de dire s'il prend une décision aussi en amont de Roland Garros, c'est de se dire
que la blessure des Roland Garros,
pas anodine,
Mario a raison, Rafa a raté des Roland Garros.
Et les Roland Garros, il y a eu des histoires à raconter.
On regardait pour savoir si Federer allait enfin gagner.
Vous avez la mémoire courte parce qu'il y a eu des Roland Garros complètement insignifiants, sans intérêt. Il y en a eu quand justement Nadal jouait pas.
Mais tu regardais pour savoir si Federer allait gagner.
Quand il y avait Tsitsipas Djokovic en finale, c'était insignifiant pour toi? Ou Tsitsipas met 2-7-0, c'était insignifiant?
Sans Alcaraz, le tournoi de Roland Garros se résume à un tournoi de ping-pong.
N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il a pris ce matin?
Tellement favori.
Faites-lui un test antidopage, s'il vous plaît.
Nadal, quand il gagnait trop facilement, il y avait aussi un manque d'intérêt. On disait oui, mais enfin, de toute manière, on connaît déjà le vainqueur avant même que le tournoi commence. Donc il y a eu aussi un petit manque d'intérêt quand Nadal était au-dessus de tout le monde. Donc ça, c'est des faux débats.
Moi, je trouve que ça enlève tout le charme de Roland Garros.
Alors, tu sais quoi?
Tu vas pas regarder Roland Garros?
Si je te vois une fois dans les tribunes de Roland Garros, je te bannis d'émission des grandes gueules. C'est clair.
Et du super basket au chouette de vivre aussi.
On ne veut pas te voir pendant 15 jours.
Mais c'est vrai que ça met une pression, Marion, ça met une pression terrible sur Sinner aussi. Pour le coup, c'est l'occasion ou jamais. Eric.
On va s'intéresser à Roland si un Français va loin. Donc, voilà, je déclenche le trucage du tirage au sort.
Je déclenche l'opération. Truquez-moi le tirage au sort. Il faut qu'Arthur Fils sorte le plus tard possible. Je ne sais pas qui sera la personnalité qui tirera les boules, mais il faut faire quelque chose.
Marion, tu veux faire un truc?
Arthur, vers la fin.
Marion, tu les connais les boules, là, tu veux faire un truc?
Non, mais arrêtez. Mais vous êtes complètement malade ce matin, en fait.
Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pris?
c'est pas possible, je peux pas entendre
tout ça.
Moi,
je suis pour Eric. Trucons les boules.
Arrête. Arrête de dire n'importe quoi.
Non, mais il a tout dit, Eric. Il n'y a pas le français en seconde semaine. Ça va être terrible.
Message pour Amélie Mauresmo, c'était une vanne. Le terrain sort de bruit, évidemment. C'était une vanne. On ne prend pas ça au sérieux. Hein. Voilà. On vient de faire un test antidopage à Christophe Cessieu. Il est positif. Hein, donc suspendu pour la fin de l'émission.
Je suis d'accord. Voilà, exactement.
Tiens, on a pas mal de messages sur WhatsApp ce matin. Tiens, Fred nous dit bonne émission, toutes les GG. Je vous écoute en prenant mon petit déj après ma sortie running. Je suis d'accord qu'on court plus vite quand les GG nous énervent. Ben voilà. Donc je pense que là, a priori, vu le début d'émission, il y a quelques records qui vont tomber.
Vous êtes au point de vitesse, Jimmy Gressier, à 380 km.
Des records vont tomber ce matin grâce aux grandes gueules du sport. On revient dans un instant.
Coach que Benoît Boutron, qui finalement ne fait pas courir ses oies.
Sur RMC Running, évidemment, Benoît Boutron. Écoutez, évidemment, si vous avez envie d'avoir des conseils running. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Les grandes gueules du sport qui portent très bien leur nom ce matin en grande forme. Christophe Cessieu, Marion Bartoli, Sarah Pitkowski et Denis Charvet. On est à un mois de Roland Garros et Carlos Alcaraz, le double tenant du titre, est donc forfait sans l'Espagnol. Le tournoi perd-il de son intérêt? Ça vous fait beaucoup réagir sur WhatsApp et au 32-16 également. On va vous écouter. Tiens, JB nous appelle de Vendée. Salut JB, bienvenue dans les grandes gueules du sport.
Salut à tous.
Bonjour.
Comment ça va? Pour une fois, je suis d'accord avec Denis. Calmez-vous. Marion, calme-toi. Dis bonjour à tout le monde. Donc, ouais, moi, je suis en Vendée. Depuis un moment, je suis au tennis club de Luçon. Et là, en ce moment, c'est les vacances chez nous. Et donc, on n'a pas eu le débat encore au club. Mais on va l'avoir dès lundi. Non, mais moi, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que le fait d'avoir appris ça, c'est comme si il y avait, je sais pas, une pierre qui nous tombe, même pas un espèce de volcan qui nous tombait dessus, quoi. C'est des ouragans qui nous arrivent dessus.
Bien sûr.
Alors, par contre, mon argument, c'est que. Vous savez, il y a toujours une histoire avec Roland qui est particulière. Par exemple, on parle de peut-être Zverev, peut-être ceci, peut-être cela. Et si c'était une surprise cette année encore? Parce qu'on a souvent des surprises à Roland. Et moi, la surprise à laquelle je pense, moi, il y a un petit peu d'argument à Monaco avec Vacherot. On a aussi Altman qui est pas si mal. Et puis parce que on va pas commencer à mettre la pression à Arthur parce que ça va nous faire une songa ça encore.
Ah bah ouais, mais tu mets pas la pression à Arthur, mais tu nous parles de Terence Altman et de Valentin.
Bah non, Joe l'a quand même fait demi-finale. Non mais attends, Joe l'a quand même fait demi-finale de Roland. Il a pas non plus, il a pas fait premier tour chaque année. Hein.
Non mais toi, en tout cas.
Ouais, mais le truc c'est qu'à un moment on y pensait tellement et j'étais à ce match-là moi. On y pensait tellement que je pense qu'à un moment on s'est dit, t'as fait, c'est Joe, il va gagner cette année. Tu te rappelles Marion? Joe, on y va.
Mais oui, je m'en rappelle très bien.
Alors, il va gagner, puis bim, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, il se prend 3-7.
Oui, mais bon, c'était sur Ferrer, dans un stade vide, parce qu'il y avait une demi de malade avant avec Nadal et Djokovic, et qui avait duré 6 heures, et que c'était un contexte très particulier. Mais il faut quand même rappeler que Joe a fait des Roland-Garros monstrueux, qui a été capable d'atteindre le dernier carré, et qu'il était dans une ère du tennis masculin, avec que des tableaux extrêmement difficiles. Il a battu d'ailleurs Roger. Donc, il avait fait quand même un tournoi absolument exceptionnel. Moi, à chaque fois, le bashing sur les Français, entre guillemets, en disant oui, mais ils n'ont pas réussi à Roland-Garros. Faire des derniers carrés à Roland-Garros au vu des joueurs qu'ils ont été capables de battre, je trouve quand même que c'était déjà des résultats exceptionnels. Mais après, on est tous d'accord sur le fait que, bien sûr, de perdre Carlos, bien évidemment, qu'on est triste et on aurait aimé le voir. C'est une évidence. Mais ce que je veux dire, c'est que le tournoi ne s'arrête pas là. Et il n'y a pas, on va pas avoir zéro à la fois spectateur et téléspectateur parce que Carlos va pas jouer le tournoi et qu'il y a plein d'autres histoires à raconter.
Je remercie JB d'avoir appelé au 32-16. Mais d'ailleurs, avant de prendre Eli dans quelques instants qui nous appelle également, vous avez vu que depuis tout à l'heure on parle d'Arthur Fils hein, quand même hein. Mais regardez, il y a peut-être un narratif qui va se créer. Non mais est-ce que ça ne va pas créer aussi une attente démesurée une attente démesurée autour d'Arthur Fils. Est-ce que c'est pas le risque?
Surtout la pression sur lui, oui, évidemment. On va parler que de lui, là, je pense.
On en aurait parlé quoi qu'il arrive.
Mais là, forcément, plus.
Oui, non, mais là, plus, parce qu'il va être dans le rôle du challenger,
Sarah.
Ça nous arrange de le mettre dans le rôle du challenger, mais il a pas fait de deuxième semaine de Grand Chelem. Soyons juste raisonnables. Il est en train de revenir. Ça fait 3 mois.
Il a fait un 8e à Wim.
Donc le lundi.
Ouais. Ben oui, mais donc
il perd sur Domina.
Mais ce que je veux dire, c'est que il est revenu depuis 3 mois et demi. Il est en train de monter en puissance. Enfin, je veux dire, ça nous arrange de le mettre en outsider, mais c'est pas le premier outsider d'Alcaraz Sinner, si Alcaraz avait été là. C'est parce que nous, on est français, on focalise. Voilà, je suis pas sûr qu'on mette
plus. Il est quatrième favori aujourd'hui, je vous dis, dans les cotes des vainqueurs potentiels.
Oui, parce qu'entre Alcaraz,
il a gagné Barcelone,
derrière Sinner, Zverev et Djokovic.
T'as mis un petit billet, toi.
Mais non, on peut les tout.
Bien sûr.
Je précise aussi.
Non, mais au vu de sa forme actuelle, il vient de gagner Barcelone. Hier, il s'en sort sur un joueur où il est mené 7-6. 0-0-30, on sent que son adversaire en face, le Péruvien Buzet, est en pleine forme, prend tous les risques, il arrive à retourner ce genre de match. Il a plein de signes positifs qui montrent que, bien évidemment, il est en train de s'installer comme un très gros outsider potentiel à Roland-Garros. Alors après, bien sûr qu'il y a la difficulté tournoi du Grand Chelem, qui sont en 5-7, qui sont en des formats différents, qu'il a plus joué en tournoi du Grand Chelem depuis Roland-Garros l'année dernière, donc il n'a pas les points de repère ni sur Wimbledon, ni sur l'US Open, ni sur l'Open d'Australie, et que toute cette dynamique d'un tournoi du Grand Chelem qui est différente d'un tournoi en 3-7, il faut la reprendre. Mais il a plein de signaux positifs qui montrent qu'il sera capable de gérer ça.
Christophe, Arthur Fils, là, est-ce qu'on va pas justement trop en parler, peut-être, du coup, de par l'absence d'Alcaraz?
Mais le problème, c'est qu'il y a eu tellement d'absences, on attend tellement. Le parallèle avec le Tour est tout à fait trouvé cette année. C'est-à-dire que là aussi, sur le Tour, on attend un mec depuis des années capable de gagner, ou en tout cas performer, d'être dans top 5. Et ben, en tennis, c'est la même chose. On a besoin d'un garçon qui nous fasse vibrer, parce que le tournoi de Roland Garros pour les garçons depuis, ou pour les filles depuis quelques années, c'est les premiers jours de la première semaine, et puis derrière tout s'envole. Sauf Loïs l'année dernière qui va presque jusqu'au bout et qui nous a fait rêver. Mais on a besoin d'un garçon qui s'installe dans la durée et qui nous fait vibrer tous les ans. On a souvent tapé sur les mousquetaires, mais il n'empêche qu'ils étaient là.
Ils étaient là, hein.
Présent.
Ils ont pas été au bout.
Gaël nous a fait rêver combien d'éditions
jusqu'en
demi-finale.
Oui, et ça nous manque aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'une partie du public va peut-être attendre un peu plus Arthur Fils au tournant. En fait, c'est ça qu'il faut, il faut imaginer. En tout cas, attendre au tournant, mais en tout cas, avoir des attentes un peu plus importante
par rapport à Sinner. Il y a des gens qui s'intéressent au tennis pendant la fenêtre de Roland Garros.
Ah ben oui, mais c'est comme ça.
Mais bien sûr, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'Alcaraz est pas là ou là. De toute manière, on est en train de focusser comme jamais sur Arthur parce qu'il fait un début de saison remarquable. Il est en train de jouer sur terre battue remarquablement bien. On voit qu'il a une autre stature, une autre mentalité, une autre sérénité. Donc on le voit aller loin. Mais j'ai pas l'impression que... En fait, si, on va parler d'Arthur Fils beaucoup plus s'il va loin à Madrid, s'il rejoue Rome derrière. C'est-à-dire que s'il arrive dans les derniers carrés de ses deux Master 1000, oui,
déjà, on va en parler. Barcelone,
mais c'est décorrélé d'Alcaraz, en fait. Oui, c'est décorrélé.
Il aura quand même plus de pression parce qu'Alcaraz n'est pas là, je pense.
Il a la pression.
C'est comme Paul Sexas au départ du Tour. Si Pogacar n'est pas là, évidemment, on va commencer à faire des titres pour dire est-ce que Sexas peut gagner le Tour. Alors qu'avant, on aurait dit est-ce qu'il peut faire un podium.
Bien sûr.
Et le public, pareil. C'est pas normalement médiatique.
Mais on en parle, sauf qu'on met pas le même objectif à la fin, mais on en parle tout autant.
Oui, mais la pression sur le joueur va être énorme.
Max Fils va gagner Roland Garros aujourd'hui, évidemment. Ilaï, au 32-16, nous appelle du Tarn-et-Garonne de Montauban. Salut Ilaï.
Salut tout le monde. Bonjour Sarah, Marion, comment allez-vous?
Écoute, on est pas mal. Salut, est-ce que Roland Garros perd un peu de son intérêt sans Alcaraz? Tu nous écoutes depuis tout à l'heure.
Pas du tout. De toute façon, Roland Garros perdra jamais de son intérêt, même si Alcaraz et Sinner et Novak et Arthur sont pas là. Ça reste le plus grand tournoi du monde de tennis, tout court, de toute façon. Donc là-dessus, que ce soit très clair, c'est pas parce qu'il y a un joueur qui est pas là que ça devient inintéressant. Et puis là, ça ouvre des perspectives, comme vous en avez parlé, pour Arthur, bien sûr. Mais de toute façon, pour Arthur, moi, je suis d'accord avec Sarah, ça change absolument rien. Il arrivera avec un dossard de challenger un peu favori pour aller en deuxième semaine, mais voilà, ça change pas grand chose. Il faut qu'il fasse un beau tournoi. Non, par contre, je pense que pour le joueur pour lequel ça va vraiment, vraiment ouvrir des perspectives, c'est Novak. Parce que Novak, je vous rappelle qu'il a battu Sinner à l'Open d'Australie.
À l'Australie.
Que, ouais. Que Novak, s'il y a un des deux qui est absent, eh ben, pour l'instant,
c'est le meilleur. Il fait un gros match en moins.
C'est le meilleur des autres. Et puis, ça lui fait, comme tu dis, un match en moins. Pour peu que Sinner, on a vu qu'il peut être inquiété. Il a été bien inquiété par Bonzi hier, qui est entraîné par le futur coach Nicolas de l'année, je l'annonce. Voilà, Nicolas Mahut et qui sait. Mais si Novak il arrive à avancer et gagner de la confiance et pas trop perdre d'énergie et de plumes sur la route, il peut faire 25. En fait, il peut faire 25.
On attend de savoir aussi si Djokovic sera là, hein, parce que pour l'instant il a joué aucun tournoi sur terre battue.
Blessé, hein.
Non, je sais.
Il est pas blessé, Djokovic.
Non, mais Djokovic
il fait ses choix.
Il s'entraîne sur terre.
Mais ouais. Il s'entraîne sur terre, Marion, t'as les infos ?
Oui, oui, il s'entraîne sur terre, il alterne entre une résidence qu'il a en Espagne et également en Serbie, donc il fait ses blocs de préparation sur terre battue. Après, comme le dit très justement Sarah, effectivement, il est à un âge et un moment de sa carrière où il choisit ses événements, il choisit ses tournois, il ne peut plus faire des programmations entières, mais on a très bien vu qu'à l'Open d'Australie, il est arrivé archi prêt. Enfin, je veux dire, pour les passionnés de tennis, regardez à nouveau les deux demi-finales masculines, à la fois celle d'Alcaraz contre Zverev, bref, et celle de Djokovic contre Sinner, ce sont des monuments du tennis. Et malheureusement pour Novak, il a calé au bout d'un set en finale, où physiquement ça commençait à vraiment attirer contre Alcaraz. Mais comme le dit très justement Ila, s'il y a un de ces très gros joueurs en moins, bah ça lui fait un très gros combat en moins. Et on sait très bien que un joueur qui a remporté 24 tournois du Grand Chelem, la gestion des efforts, il les connaît à la perfection. Et que si, entre guillemets, à son niveau, il a qu'un gros match à jouer, parce que je vous rappelle quand même que l'année dernière, il bat Zverev, je vais pas dire assez facilement, mais quand même, il lui donne une leçon de tennis à Roland-Garros, Novak Djokovic. Donc, le très grand adversaire qu'il va avoir s'il arrive prêt, ça sera Yannick Sinner. Mais ça sera plus Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Et ça, pour Djokovic, ça peut faire une énorme différence dans le résultat final.
Je remercie Ilaï de nous avoir appelé au 32-16 et tous les appels que l'on a eu au standard, évidemment, pour participer à ce débat sur Alcaraz. Donc, forfait pour Roland-Garros dans un mois. Évidemment, ça sera à suivre en intégralité sur RMC, les internationaux de France. Allez, dans un instant, les amis, le zapping, on va parler de Wemby, on va parler de Kylian Mbappé, on va parler également d'Arthur Fils. On revient dans un instant, tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport, dans un instant, sur le ring. Tiens, est-ce qu'il faut encore parler d'âge pour réussir dans le sport? Parce que là, ça devient vraiment maintenant la phrase à la mode. Hein. Ne parle pas d'âge, c'est que ça se l'a dit cette semaine, Mbappé l'avait dit. Est-ce qu'il faut encore continuer de parler de ça ou est-ce qu'il faut qu'on change complètement notre logiciel? On va en parler dans un instant avec vous. Vous votez sur le compte XDGG du sport. Tout de suite, vous me dites si on s'en fout ou on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Tiens, rapidement, on en a beaucoup parlé, mais parlons spécifiquement du tournoi de Madrid. Je m'en fous pas. Arthur Fils passe dans la douleur au Masters 1000. Sarah.
Je m'en fous pas.
Marion.
Je m'en fous pas.
Christophe.
Je ne m'en fous pas.
Denis.
On va faire parler les experts.
Donc, tu disais, Marion, tout à l'heure, hein, il a affronté le Péruvien Ignacio Bousset, 58e mondial, oui. Qui l'a poussé dans ses retranchements. Hein, vainqueur en 3-7, en 2h30, qualifié pour le troisième tour. Il affrontera demain l'Américain Emilio Nava, 116e mondial et tombeur de Valentin Vacherot en 3-7. Oui. Est-ce que le Masters 1000 de Madrid... on va dire est une possibilité pour Arthur Fils. Les conditions de jeu sont complètement différentes hein, par rapport à Barcelone.
Conditions de jeu complètement différentes. On joue un petit peu en altitude et pour avoir joué ce tournoi de très nombreuses reprises, il faut avoir une capacité d'adaptation énorme parce que les mêmes balles qu'on a l'impression de frapper avec exactement le même effet, la même technique, qu'on met 50 cm avant la ligne de fond de court dans n'importe quel autre tournoi du monde. À Madrid, elle termine 30 cm dehors. Donc, en fait, la balle ne retombe pas. Donc, il faut arriver en permanence à mettre un peu plus de sécurité dans ses frappes, à jouer avec un peu plus de volume. Oui, mais ça fait partie de cette adaptation qu'on doit avoir en tant que joueur de tennis. Et là, moi, ça m'a vraiment fait très plaisir pour Arthur hier. C'est que lorsqu'il perd le premier set, 7-6, il fracasse sa raquette par terre. On se dit, oh là là, ça va être dur. L'enchaînement des matchs, l'enchaînement des tournois. Il a plus gagné un tournoi depuis un petit moment. Là, il a remporté un à Barcelone. Les conditions différentes. Le public était en feu pour le Péruvien. Ça va être compliqué. Et à l'arrache, à la bagarre, il arrive à trouver des solutions. Il est un petit peu plus monté au filet quand il le fallait. Il a bien tenu la diagonale de revers. Enfin, il a fait tout ce qu'il fallait pour arriver justement à renverser la situation, et il va s'imposer à l'arrache au forceps. Mais ce genre de victoire, c'est ce qu'il vous faut totalement pour arriver justement avec je ne vais pas dire de l'assurance, mais en tout cas des certitudes à voir Roland-Garros. Mmh. Et là où je suis complètement d'accord avec Sarah, c'est que c'est un tournoi où il va être attendu, bien sûr, à Roland-Garros. Et justement, tous ces matchs-là qu'on va gagner à l'arrache, à la bagarre, où on ne joue pas tout le temps son meilleur tennis, mais on va trouver des solutions, ça vous donne énormément de capacité à faire face à toutes les situations possibles. C'est ce qu'a fait parfaitement Rafael Nadal pendant tant d'éditions. Mmh. Et on souhaite, bien sûr, que Arthur soit en capacité de le faire.
Sarah, tu es d'accord avec ça? Tu es impressionné par le mental d'Arthur Fils? On se rappelle, il n'y a encore pas si longtemps, notamment en demi-finale à Miami, où il avait un peu perdu le fil avec face à Lechka. Il y a une maturité peut-être, oui, sur sa gestion des émotions, même si là il casse une raquette, mais en tout cas à pas se perdre derrière.
Oui, parce qu'en fait on progresse aussi dans des matchs difficiles comme cela où peut-être il y a encore quelques mois il l'aurait perdu parce que débauche d'énergie dans des énervements ou le fait de sortir un peu du match, mais cette sérénité et cette assurance qu'il montre, c'est assez rassurant, c'est-à-dire que tu peux te prévaloir de matchs où tu passes à côté. Parce que tu peux passer à côté d'un match quand t'en joues 50 dans l'année, encore heureux que tu passes à côté de match. Mais d'être capable d'inverser la tendance alors que ça tourne pas en ta faveur, ça montre une énorme maturité. Et ça, dans son bagage confiance, c'est colossal.
Allez, on zappe et on suivra, ouais, continue évidemment Arthur Fils demain. Je m'en fous pas, les GG en NBA, sans Victor Wembanyama, qui récupère de sa commotion, les Spurs de San Antonio gagnent à Portland et prennent l'avantage dans leur série. Christophe?
Je m'en fous.
Hein? Il y a quelque chose de rassurant pour les Spurs de savoir qu'ils sont pas 100% dépendants ou NBA dépendants.
Il avait déjà montré en saison régulière. 2-1 pour les Spurs dans leur confrontation face aux Blazers. Il faut gagner encore deux matchs pour se qualifier au tour suivant. Les Texans ont été menés de 15 points dans le troisième quart. Temps, ouais, hein, avant de s'imposer 120-108, ouais, grâce aux 33 points de Stephen Castle. Wemby assisté au match en tenue civile sur le banc. Il va mieux et fait des progrès, a déclaré son entraîneur, sans préciser s'il allait jouer demain pour le match 4, qui sera à 21h30 heure française d'ailleurs, pour Wemby. Ouais, ouais. À Portland, exactement. Ouais.
Mais c'est ultra important de savoir que les Spurs, oui, ils l'ont démontré dans la saison régulière, mais là, t'es dans les playoffs. C'est juste incroyable.
Mais ils avaient battu deux fois sur trois sans Wemby. Déjà allé au Portland.
Ouais, Portland, c'est pas la meilleure équipe.
Mais là, ils ont un autre rookie.
C'est une très bonne équipe.
Marion.
Oui, mais ils ont un autre rookie qui a bien performé, qui est Dylan Harper, qui a 20 ans, qui justement, après la pause, quand ils étaient menés, a été capable de marquer des points, importants avec un total de 27 points, qui était d'ailleurs son record. Il a fait 10 rebonds en sortie de banc. Donc, justement, que toute l'équipe ne se repose pas uniquement sur les performances de Wemby, bah, ça va leur permettre, on l'espère pour eux, d'aller plus loin. Et puis la partie très positive, c'est que les médecins ont été rassurants pour nous, en nous donnant que des nouvelles positives, en disant que Wemby allait de mieux en mieux, qu'il avait passé le protocole commotion, que certainement on allait le retrouver sur le match suivant. Donc non seulement il gagne, Wemby va mieux, on va certainement le retrouver sur le match suivant, il n'y a que du positif.
Et puis Wemby se repose un match tranquille.
Comment il s'appelle?
Wemby.
Ah oui, d'accord, ça va.
Oui, parce que je suis pas
Lorraine. Tu n'arrives même plus à dire Wemby. Ah, comment tu dis?
Victor.
Dans son nom?
Ouais, Wemby.
Complètement sûr de ton coup là.
Wembanyama.
Allez,
c'est bien.
Oh, ça va.
Bravo Denis.
Si Maxime ne l'avait pas soufflé, jamais j'aurais pu le dire.
Tout arrive, notre producteur. Allez, on zappe les amis. Wembanyama, évidemment, on espère le retrouver dès demain. Pourquoi pas, en attendant d'avoir des nouvelles. Je m'en fous pas. À 47 jours de la Coupe du Monde,
ouais,
Kylian Mbappé, ouais, est sorti blessé avec le Real Madrid hier. Denis.
Non, je m'en fous pas.
Christophe?
Non, je m'en fous pas.
Marion?
Mais alors, je m'en fous pas, mais je pose la question. Est-ce que la Coupe du Monde n'a plus aucun intérêt si Kylian Mbappé n'y participe pas?
Les provoques.
Sarah? Je vais vous laisser répondre. C'est pas que je m'en fous, mais de ce que j'ai lu, ça n'a pas l'air super grave.
Bon, attention, parce que moi, les blessures pas si graves, quand on a 58 jours de la Coupe, 47 jours de la Coupe du Monde, je m'en méfie. Surtout, les diagnostics médicaux du Real, je m'en méfie aussi, depuis cette année.
Exactement.
Le capitaine des Bleus.
L'équipe de France, c'est pas non plus brillant.
Comment ?
les rapports médicaux de des équipes de France.
Ah, t'attaques l'équipe de France.
Ah bon, pourquoi?
Ça y est,
j'ai pas d'infos. Le capitaine du Bleu a quitté le terrain à la 81e minute hier lors du nul contre le Betis, qui semble condamner les espoirs de titre d'ailleurs du Real, qui a 8 points du Barça désormais. Mbappé, touché après avoir stoppé sa course, lors d'une course, il a cédé sa place. Il avait une gêne et nous allons voir comment cela évolue durant les prochains jours, a dit Arbeloa, l'entraîneur du Real, après le match. Il y a un classico le 10 mai, hein, je rappelle. Denis, ça t'inquiète un peu pour Mbappé?
Non, franchement.
Blessure musculaire peut-être?
Oui,
à 47 jours du mondial,
c'est peut-être les ischios. Les ischios, c'est toujours embêtant. Donc oui, c'est quoi? C'est le repos là, le repos forcé, 15 jours, 3 semaines.
Alors qu'il y a un classico dans deux matchs. Mais en fait, c'est ça le truc. Le Real a souvent poussé pour qu'il joue.
Classico, il va pas le jouer.
Non, mais t'as ils l'ont perdu la Ligue.
Ah d'accord, bah très bien. Donc en fait, vous me dites que pour le Real, le classico c'est pas important, même si le
titre est
belge. Mais non, mais bien sûr. Mais là, pour Kylian Mbappé, c'est la Coupe du Monde.
Mais bien sûr, ils ont rien gagné.
Mais non, mais si
non, mais attendez, les amis, là, par contre, vous êtes complètement à côté de la plaque. Non, je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point, pour le Real, c'est important de gagner le classico.
Mais c'est bien, mais moi, justement, pour la
Ligue. Oui, mais nous, on a un prisme français.
De l'équipe de France.
Oui, mais nous,
donc,
on
si Mbappé se blesse maintenant, eh ben,
nous,
il va pouvoir récupérer et être en forme pour l'équipe de France.
Mais est-ce que tu crois
voilà la priorité que doit avoir Mbappé à quelques semaines de la Coupe?
Non, mais est-ce que tu crois que Mbappé va prendre le moindre risque?
Je pense qu'il
pour un classico. Mais non, mais t'es fou.
Il l'a déjà fait en janvier, les amis.
C'est lui qui demande à sortir à la 81e minute. Et on a fait un débat il y a quelques mois ici même. Je me souviens, la question c'était: est-ce que Mbappé va se préserver pour la Coupe du Monde? On se posait la question, je crois que c'était début janvier, avec son problème au genou. On se demandait s'il retardait pas sa reprise, juste parce que lui visait plus la Coupe du Monde qu'autre chose. Peut-être que c'est lui aussi qui sent une petite gêne et qui veut pas prendre de risques.
Yamal est dans la même situation.
Yamal est carrément blessé pour la fin de la saison.
Voilà, ça aussi, ça va lui permettre de se reposer, de se réathlétiser et de peut-être entrer en cours de compétition, parce que le premier tour, pour aucune grosse équipe, ça devrait être un problème. En revanche, si tu récupères un Yamin Lamal, un Kylian Mbappé, si tu les récupères en début de compétition, ce n'est que meilleur pour les
équipes. Tu peux nous le refaire les deux ou non?
Kylian Lamal et Yamin Mbappé, c'est ça?
Bien joué.
Allez, c'est bon, voilà. La Coupe du Monde, on est prêt sur AMC pour la Coupe du Monde. Jean-Louis Tour, attention, parce que peut-être que sa place comme commentateur est en danger. Allez, évidemment, on continuera d'en parler, de Mbappé, des blessures. Là, en fait, n'importe quelle blessure à cette distance de la Coupe du Monde, évidemment, nous interpelle, évidemment. Allez, les amis, dans un instant, Mathieu Mbappé qui nous disait qu'il fallait pas parler d'âge, on va en parler dans un instant entre nous. Est-ce qu'il faut arrêter de parler d'âge pour réussir dans le sport? Quand on dit par exemple, mais non, il est jeune, il peut pas faire le Tour, mais non, il est jeune, il peut pas faire la Coupe du Monde, mais non, il est jeune, il peut pas faire Roland Garros. Est-ce qu'il faut arrêter quand on voit un peu les énergumènes que l'on a désormais dans le sport de haut niveau? On en parle avec vous au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.